Elle reviendra à midi, vous informer en pleine forme. Et j'adore votre tenue vestimentaire aujourd'hui. C'est nul pour la radio, mais je la trouve très chic, Leïla.
La tenue Laetitia. Est nulle pour la radio. J'embrasse, Laetitia.
Si je t'aime fort.
Oui, moi aussi, si tu savais.
Ah bon?
Ouais.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kamouboudadi.
Bonjour, bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Albert Algoum.
Bonjour, bravo.
Le grand retour d'Alison Wheeler. Truc de dingue, truc de malade. Et notre invité Bastien Vivès. Bienvenue Bastien dans cette émission, c'est votre première,
avec nous.
Pas inter, mais la bande originale, oui, c'est la première émission que vous fassiez. Et j'espère que le maréchal Ganache a bien compris pourquoi Bastien Vivès était notre invité.
Affirmatif, il faut que je tousse, que je me racle un peu la gorge. Affirmatif, mon cher Nagui, mais avant de vous exprimer ce que m'inspire votre question, oui... C'est bien comme ça.
C'est
oui.
Plus doux.
Voilà, je teste. Hey. Un, deux, trois.
Nagui, asseyez-vous.
Va t'asseoir, Nagui. Mais avant de vous exprimer ce que m'inspire votre question, mon cher Nagui, asseyez-vous. Laissez-moi vous dire à quel point je suis content d'accueillir une personne qui porte un nom dont, comme l'exigent les règles de la prononciation française qui me tient à cœur, qui porte un nom dont toutes les lettres se prononcent.
Ah oui.
Vivès. Voilà, ça c'est fait. Ouais. Maintenant, mon cher Nagui, je reviens à votre question.
Je crois qu'on était au top, là.
S'il vous plaît. Je reviens à votre question, car il faudrait qu'un jour, vous finissiez par montrer que vous en avez dans le froc, en balançant aux invités ce que vous pensez vraiment d'eux. Au lieu de vous défouler sur votre équipe, comme c'était encore le cas ce matin, qu'en découvrant Une Sœur, l'album de Bastien Vivès, puis chez Casterman, excellente maison. Vous vous êtes écrié tout en envoyant valdinguer à grands coups de latte la douzaine de stagiaires qui encombrent le bureau de la bande originale. Mais nom d'un sphinx, combien de fois faudra-t-il que je vous dise que pendant Roland-Garros, je ne veux pas me prendre la tête avec des bouquins? Comme Delphine, une de vos fidèles assistantes, alors murmurée en tremblotant, « Maître, il ne s'agit que d'une BD, avec plein de pages sans texte. Une BD en noir et blanc. Quoi ? En noir et blanc ? S'est exclamé Nagui. Sébastien Vivès, c'est vraiment une feignasse, ou alors il doit être trop radin pour engager un coloriste. Ou une coloriste, en général, c'est toujours des filles. Mais bon, je vais faire le taf en disant que j'ai adoré, et de toute façon, je compte sur le pitch de Ganache pour enchaîner brillamment. Alors, puisque vous tenez au spit, la voici.
Résumé.
Une sœur, ça raconte surtout l'histoire d'un frère. Alors, si vous avez lu la BD, vous verrez, vous goûterez à la subtilité de ce résumé. Ceci dit, j'ai été d'autant plus ému par ce récit initiatique qu'il m'a ramené à cette merveilleuse année, 1943, à La Châtre, où moi aussi, c'est avec une sœur que je connus mes premiers émois amoureux.
Une
sœur siamoise, Marcel, qui elle-même était très attachée au sens propre à sa sœur André. Oui, j'étais amoureux d'une des deux célèbres siamoises de La Châtre, dont l'une était pétiniste et l'autre fan du général de Gaulle. Et attendez, j'ai pas fini. Cette histoire a elle aussi fait l'objet d'une bande dessinée. Grâce à mon excellent ami Albert Algou, que vous connaissez.
Oui.
Il vient de temps en temps ici.
De réputation.
Alors, un des plus intelligents de votre bande, de feignasse. Donc, qui scénarisa cette histoire et qui demanda...
Ça vous trouble,
oui, oui, vous allez comprendre pourquoi. Et qui demanda à son ami Villemin, excellent auteur également, un peu plus âgé que Bastien, qui lui demanda de la mettre en image. Elle figure dans les chefs-d'œuvre de Villemin, que voici, publié chez Albin Michel, que je vais m'offrir à moi-même parce qu'il m'est dédicacé. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vous souhaite maintenant une bonne émission.
Merci, maréchal.
La bande originale. Nagui sur France Inter.
Rien compris. Bon. Non. Heureusement, taisez-vous. Heureusement.
Regardez, André et Marcel, Albert Algou, Philippe Villemin.
Ah, tu es dedans.
Il est dedans.
Ah, pardon, j'ai oublié. Bastien Vivès,
vous nous faites un cadeau en donnant une petite sœur à Paulina, un petit frère à Paulina, c'est magnifique.
Vous signez Une Sœur chez Casterman. Pour l'anecdote, il y a quelques jours de ça, dans cette émission, votre nom a été cité, votre BD a été offerte, et à l'antenne, on a dit, mais il faut qu'on l'invite, puisque tout le monde était d'accord pour dire que
vous appréciez. Militant.
Non mais exactement, vous avez été choisi, préempté par tout le monde.
Nagui était seul
seul à être contre. On a eu à la majorité. Bah,
c'est-à-dire que, non, j'étais d'accord
pour
lire.
Une... c'est sorti démocrate. Non, je ne croyais pas à mes oreilles.
Une... j'ai lire une bande dessinée, je me suis dit d'accord. Quand j'ai vu qu'il y avait 200 pages, j'ai dit non, c'est incroyable.
212.
Tu vois, c'est toi qui compte. C'est incroyable. Non, elle est particulière, votre manière de travailler, de dessiner, de raconter. Expliquez-nous, expliquez-moi comment vous avez, comment vous approchez ce milieu-là. Est-ce que ça s'écrit comme un scénario de court-métrage, de film, et on a d'abord une histoire? Est-ce que c'est le dessin qui guide et qui motive l'histoire? Quel est le moteur d'un créateur de bande dessinée?
À la base, moi j'ai envie de raconter des histoires, et aussi c'est le dessin qui me motive depuis que je suis tout petit. Donc, moi j'aime bien dessiner les filles, j'avais envie de raconter cette histoire de frangin, et en fait il y a plein d'envies et d'idées qui vont se mettre ensemble, ça fait un petit puzzle, et au bout d'un moment, on se sent prêt à raconter cette histoire. Et donc je prends une grande pile de feuilles A4 blanches. Je découpe tout pendant 2 jours, je fais des grosses patates, et puis ensuite après j'ai pris 3-4 mois pendant l'été dernier pour tout dessiner.
Quand vous commencez à dessiner, vous connaissez la fin de l'histoire?
Oui, évidemment. Ouais, mais parce que c'est une histoire aussi que j'avais en tête depuis un an et demi, mais j'avais pas forcément les bons axes. Et après, l'histoire est toute simple, c'est un garçon qui rencontre une fille. Et ça a été fait un milliard de fois, mais il faut trouver le bon axe. C'est moi je trouve que c'est un peu plus rigolo de mettre cette histoire un petit peu de frère et sœur.
Alors tout n'est pas très heureux là-dedans.
Ça commence par un drame, ça finit par un drame, on va dire, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe au milieu.
Oui.
Et tout d'un coup, grâce à vous, vraiment, moi je trouve ça stupéfiant, j'aime beaucoup vos BD, je crois que je vous ai quasiment lu sur tous les albums. Et puis là, le petit break avec Last Man faisait qu'on se disait quand est-ce qu'il va revenir pour un nouvel album.
J'ai senti qu'il y avait une petite attente.
Il y a une petite pression, une petite attente. Et en fait, dans ce récit-là, entre ce drame initial et ce drame final, vous nous permettez d'avoir 13 ans, à nouveau, de revivre nos premiers émois, parce que c'est de ça dont il s'agit avec l'histoire d'Antoine, qui a 13 ans à peu près, et d'Hélène.
Chacun découvre et le corps de l'autre et son propre corps, quoi. C'est vraiment la...
Pas toujours une belle surprise.
Non, mais c'est le rite de passage, en fait. C'est le rite de passage pour chaque individu, que ce soit une fille ou un garçon, qui s'initie au plaisir adulte, en fait. Et c'est le temps d'une semaine que ça se passe en vacances sur l'île aux Moines. Et c'est vraiment magnifique.
Comment on peut définir la plume, le savoir-faire de Bastien Vivès?
Oh là, je ne saurais pas bien dire.
Bah si, vous êtes un spécialiste de la bande dessinée.
Pourquoi tant du point de vue graphique que du scénaristique, c'est de grande qualité? Non, j'aurais du mal à en parler. Ce que je sais en revanche, c'est que Bastien Vivès, c'est un des rares auteurs. Bon, il n'est pas le seul, il y en a eu quelques-uns avant lui, je pense, à parler de l'adolescence et de sa complexité. Je pense à Baru, je pense à Zep, il y a Satouf, Riyad dans un autre genre. Mais ce que fait Bastien, c'est vraiment unique. Et c'est très très dur de parler de l'adolescence, que ce soit en littérature ou en bande dessinée en littérature. Je pense en lisant, je pensais à l'émotion que j'ai pu ressentir en lisant, par exemple.
Il peut faire parce qu'il n'en est pas loin de son adolescence, justement.
Non, on peut être très loin de son adolescence et en parler bien. Un exemple, c'est Mauriac, un adolescent d'autrefois. Il écrit ce bouquin à 70 ans, c'est bouleversant. J'incite les gens à lire. On va dire Mauriac, ce vieux Mauriac avec son phrasé tout tremblotant. Ben non, c'est un merveilleux livre. Ou Salvador Dali, par exemple, dans ses mémoires, il parle de l'adolescence, et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est donné vraiment à des artistes subtils et fins. Et il y a ça chez Bastien, parce qu'il y a l'émotion, mais il y a pas le pathos.
Et Fotorino l'a fait aussi avec le Do Crowley, c'était à peu près cette période-là, c'est l'adolescence.
Vous avez un truc à dire, Bastien?
Non, mais ça se drôle parce que, par exemple, si on a 40 ans ou 50 ans et qu'on retombe amoureux, ben on a tout de suite 13, enfin au bout 15, ça va assez vite. Ou même si votre papa est malade et qu'il va mourir, ben est-ce que vous avez vraiment 50, 60 ans? Bref, on a notre âge biologique, mais il suffit d'un petit événement, d'une micro-situation pour en fait retourner soit dans l'enfance, dans l'adolescence et tout ça. Donc en fait.
Alors justement, l'événement qui a déclenché cette histoire, une sœur.
Bah moi à chaque fois c'est toujours un peu la même chose, c'est que je quand j'écris ce genre de bouquin, même que ce soit Paulina ou autre chose, c'est il se passe quelque chose de personnel, il se passe on a soit une rencontre soit une discussion inattendue. Je sais que par exemple Paulina c'est une histoire d'une petite danseuse avec son maître, et c'est quelque chose qui parle d'art, c'est un livre qui parle d'art. Et ben c'est juste, je mange avec mon père, on est tous les deux, c'est son anniversaire, mais ma mère n'est pas là, mon frère non plus. Et je lui demande, qu'est-ce que ça fait d'avoir 53 ans? Et il me dit, c'est insupportable. Et donc je fais, ah ok, donc en fait mon père est vieux, en fait il se passe quelque chose, mais c'est vrai qu'il m'a appris le dessin. Tiens, si je racontais une histoire là-dessus, et c'est ce genre de petites émotions comme ça qui nous rappellent. Enfin, voilà.
On Paulina, a le sentiment. C'est le père, ouais. Paulina, c'est vraiment le lien
c'était
au père.
C'était une BD faite pour lui.
On a le sentiment qu'on est chez vous, on a un sentiment que c'est votre histoire, que c'est vous avec votre frangin, que
c'est
vos parents.
Pas du tout passé à ça quand j'avais 13 ans, mais.
Mais on a, en tout cas, vous retrouvez des repères, oui. Notamment dans la manière d'apprendre
mais
à dessiner.
Mais parfois c'est gênant même.
Non, mais en fait, c'est ça. Le but, c'est de raconter comme une histoire qui est quand même un peu.
Crédible.
Fantasmée, voilà. C'est que t'as une gamine de 16 ans qui va avoir une attirance pour un gamin de 13 ans, c'est quand même. Très, ça n'existe pas vraiment dans la réalité. Et s'il fallait, c'est
ça
genre,
existe
c'est,
dans tous les cerveaux des gamins de 13 ans.
Oui, voilà. Mais en fait, ça n'existe pas dans la réalité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'était de rendre cette histoire crédible. Donc, il fallait la charger avec des ambiances, avec même des petites histoires qui rendaient les choses crédibles. Donc, parfois, j'allais chercher dans soit des histoires vécues par d'autres ou même vécues par moi et de rendre ça un petit peu crédible. Mais dans le fond de l'histoire, il faut arriver à faire passer la pile
au passage antenne tout à l'heure entre Laetitia Gaillet, Ali et moi, il y a eu un débat sur la sexualité, sur le côté sexuel de cette bande dessinée, avec Ali qui dit c'est très sexuel, Laetitia qui dit mais non, pas du tout. Vous situez où ce curseur ?
Moi, en fait, j'essaie de
c'est
de
pas
montrer
une bande dessinée pour adultes.
En fait, j'essaie de repenser à vraiment comment est-ce que c'était la sexualité quand on était adolescent. Bon, moi, je l'ai pas vraiment vécu, mais j'essaie un peu de me remettre dans le contexte. C'est un moment où en fait, on a absolument aucune intimité quand on est adolescent, à part la salle de bain où tu le partages avec la famille, c'est très compliqué. Il faut arriver à trouver ces moments d'intimité, ce qui fait qu'on est toujours dans l'urgence, on est toujours dérangé par quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui débarque.
Surtout quand on partage la chambre avec son frère.
Ouais, voilà. Et donc, l'idée, c'était de retrouver ce moment où, en fait, on sent que ça monte, ça y est, hop, ça bascule, il s'est passé quelque chose, soit il y a un peu de touche pipi, de choses comme ça, puis en fait, bim, on désamorce derrière. Donc, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir parfois la case, gros plan, avec... la fellation avec la main sur la chatte, avec toutes ces choses-là.
Mais la couette aussi.
Voilà, la couette. Voilà, c'était important d'avoir ces moments où on se retrouve avec une grande image brute et puis après, ça partait.
Mais vous avez envie aussi de rentrer dans les fantasmes, rêves d'une fille aussi.
Oui, complètement.
Vous aimez ça.
Moi, j'adore, une fois que j'ai mes personnages en place, j'adore imaginer. Je pense que secrètement, moi déjà, j'aurais rêvé d'avoir une grande sœur. Et après, secrètement aussi, les filles m'ont toujours tellement intrigué que j'avais presque envie de je me suis dit j'aurais bien aimé être une fille pour voir comment c'était quoi.
Mais il n'est jamais trop tard.
Pourquoi vous dessinez par moment les visages sans regard?
Alors ça c'est parce qu'en fait parfois j'ai pas besoin des yeux en fait. Les yeux passent énormément d'émotions et passent énormément d'informations, mais parfois quand on a envie de mettre en valeur un geste, par exemple je pense à un moment où ils sont en train de faire du vélo et qu'il la tient par la taille, et ben moi c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'il la tienne par la taille. J'ai pas besoin d'avoir les yeux et les yeux sont pas très importants, donc je les enlève, parce que dans la bande dessinée on doit lire rapidement les cases et l'œil du lecteur doit passer rapidement.
Et d'ailleurs il y a une scène importante, c'est une sorte d'apparition, de révélation, je croirais dans l'éducation sentimentale. C'est la première fois qu'Antoine voit Hélène, et avant de la voir, ben il faut quelques cases en fait, Bastien Vivès.
Même il en faut beaucoup. Qu'avant même d'avoir le regard, il en faut moi une vingtaine de pages quoi. Et j'aime bien faire monter la sauce comme ça.
La première scène, elle est en train d'envoyer des textos.
Oui, mais on voit pas vraiment les traits d'Hélène. On voit simplement cette jeune fille avec ce téléphone, en effet, qui
déambule. Les cheveux qui viennent masquer le visage.
Et on voit à un moment simplement le regard d'Antoine. Et là, on voit bien ses yeux, parce que tout d'un coup, il a une sorte d'épiphanie. Elle est là, et ça sera elle.
Albert, tu voulais dire ?
On parlait de vélo. Il y a un dessinateur qu'on aime bien avec
Bastien Vives. On parle d'amour et de femmes.
On va parler de vélo maintenant. Non, parce qu'on va revenir au dessin, puisqu'on parle des yeux qui ne figurent pas. On est vraiment dans le graphisme.
Pas toujours. Non, si.
Il paraît que c'est vachement dur de dessiner des personnages à vélo. Je me disais ça. Il dit que c'est un des trucs les plus durs.
Ouais, c'est très très compliqué parce que c'est déjà juste un homme sur, enfin, un personnage sur un élément mécanique, c'est déjà très compliqué, vu que c'est un vélo, en plus, il n'y a rien de plus fonctionnel que ça. Et ben, savoir où sont bien placées les mains, les distances, entre tout, parce que si un vélo est un peu mal foutu,
Et l'idée du mouvement aussi, du rythme.
Puis, est-ce qu'on dessine les rayons ou pas? C'est toujours la grande question.
Ça, on se demande tous.
Non, mais ça dépend de la vitesse avec laquelle.
Les plus grands se sont posé la question, Franquin, dans La Mauvaise Tête, un Spirou, où il y a une course cycliste, il se pose la question, et Pelos, un des auteurs
même,
des Pianiclés,
même
Hergé
quand il dessine, là il y a le Tintin et Soviet qui est ressorti il y a pas très longtemps, et ben quand il refait les bagnoles en mouvement, il y va, enfin, vraiment il il dessine juste la masse et c'est déjà très impressionnant parce qu'il arrive déjà à trouver l'astuce, quoi.
Pour continuer de parler de votre manière de dessiner, ce qui est frappant, c'est la notion presque de scénario, cinéma, de storyboard. Mmh. Mmh. Vous jouez beaucoup avec les cadres, vous jouez beaucoup avec des cadres, même s'il peut y avoir deux, trois cases qui on peut avoir le sentiment que c'est exactement le même dessin, mais il y a la main qui a bougé différemment pour donner ce sentiment de mouvement. Mmh. Ça relève du cinéma. C'est-à-dire on se dit, mais là, c'est une préparation. Le réalisateur n'a plus qu'à.
Moi, j'ai pas fait d'école de BD. J'ai fait une école de cinéma d'animation au Gobelin. Donc, j'ai commencé à apprendre à raconter des histoires avec du storyboard. Et je pense qu'au début, je n'utilisais la BD qu'avec ce système-là. Je faisais des espèces de storyboard en bande dessinée. Et très vite, c'est surtout sur Paulina où en fait je me suis rendu compte de la puissance vraiment du langage propre de la bande dessinée qui est l'ellipse, qui est ce moment où en fait on peut faire durer entre deux cases, on peut faire durer 1000 ans, comme on peut faire durer une seconde qui peut durer 20 pages. Et ça, c'est très très intéressant. Et une fois qu'on comprend un petit peu
Du temps.
Voilà, une fois qu'on commence à comprendre ça, on dit ah, en fait les possibilités elles sont infinies et c'est assez jouissif. Et maintenant, avant je dis encore que la BD c'est un peu mon cinéma du pauvre, mais plus ça avance et plus comment je pense vraiment à me rendre compte que non, en fait, dans la BD, il y a un langage qui est très agréable et j'ai essayé de dessiner un peu pour le cinéma ou même faire du cinéma d'animation. Et en fait, très vite, je ne retrouve pas la liberté de récit que j'ai dans la bande dessinée.
Vous avez eu des retours de réalisateurs qui auraient lu votre livre ?
Oui, j'en ai eu quelques-uns. Ouais. Et tout de suite, c'est ce rôle parce qu'ils disent « Ah, mais tout de suite, on peut en faire un film et tout ça. » Mais alors que je pense qu'il y a un travail d'adaptation qui est quand même assez monstrueux à faire. Parce que là, je pense que si on le filme comme ça, ça ressemble à un épisode de Plus belle la vie.
C'est bien Plus belle la vie.
Il faut quand même avoir une vraie vision de cinéma, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'on pense à Diabolomante, on pense à tous ces films comme ça, à Romer aussi, qui ont filmé les premiers émois d'adolescents. Ah oui,
qu'est-ce qu'ils les ont bien filmés aussi.
Qu'ils les ont bien filmés. Et en fait, ce qui est aussi touchant chez vous, c'est que dans Paulina, par exemple, c'est une bande dessinée, mais ce n'est que du mouvement. Mmh. On parlait tout à l'heure du vélo ou de la voiture, et vous parvenez à merveille à nous donner la sensation que Paulina est devant nous, qu'elle est en train de danser. Et justement, le film a été adapté au cinéma.
Oui. Oui, mais là, ça a été adapté par un chorégraphe.
Le film a été adapté au cinéma.
La BD, pardon.
Et c'est adapté par Angelin Pagelocage et Valérie Muller. Et donc, ils l'ont adapté au cinéma. Et c'était quand même assez costaud parce que Paulina, ça retrace quand même la vie d'une danseuse entre ses 5 et ses 40 ans. Et c'était un gros pari. Et il a amené toute la danse. Le film est l'histoire un petit peu plus dense que le. Enfin, danse dans le sens de la danse.
Des
AN. Voilà. Et un petit peu plus dense.
DEN alors,
je comprends. La danse.
Arrêtez maintenant, ça suffit.
On va dire compact et danse comme
ouais,
ça.
Voilà, voilà. C'est ça.
Compact et chorégraphe.
Et le film, en plus, on a eu la chance de. Il y avait Anastasia Shvetsova qui est une danseuse du ballet russe et tout. Et vraiment, elle, juste pour sa performance, ça vaut le coup de voir le film.
Il y a des dessins que vous ne savez pas dessiner, donc vous vous interdisez que le scénar vous emporte dans telle ou telle piste.
Non, il y a toujours un peu le mythe en BD. Comment dessiner quelqu'un qui fait semblant de dormir c'est un bordel. Il y a certaines choses qui sont pas évidentes à faire où on a besoin d'avoir un peu la narration. Il y a déjà vu que nous on a pas de son, c'est compliqué. Par contre, on a la chance en BD et au niveau des dialogues, en fait les personnages jouent toujours juste comme dans la littérature. Donc ça pour le coup c'est vraiment un bonheur. Ce qui fait qu'on peut faire des dessins avec plein d'enfants. Enfin, on peut faire des avec plein d'enfants, avec des animaux, avec tout ça. Il n'y a aucun problème. Ils joueront toujours juste.
Non, parce que le son, c'est le lecteur qui l'imagine.
Voilà.
C'est ça qui est formidable. Il y a des enfants, Tintin, qui disaient, j'aime bien la voix du capitaine Haddock. Et c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, il l'entendait dans sa tête.
La frustration quand tu vois les premiers dessins animés après avoir vu des BD, exact, tu dis, mais c'était exactement. Pas du tout la voix que j'imaginais.
Alors que les dessins animés Tintin étaient.
Il y a aussi une chose pour revenir à la spécificité de la bande dessinée quand même, parce que Bastien le disait à l'instant, parce qu'on parle du cinéma, effectivement, il y a des influences. On pourrait parler aussi du manga et tout. Mais la BD, on peut appréhender une page, même s'il y a plusieurs images, et en voir la beauté. Ou se dire, tiens, c'est beau, sans même lire le texte. Alors qu'au cinéma, c'est image par image. Mmh. Ce qui appauvrit pas la chose, bien entendu. Mais la bande dessinée, c'est un art vraiment spécifique. pour les grands auteurs ou les excellents auteurs comme, non, et puis, comme Bastien.
Et puis dans la bande dessinée, il y a quelque chose qui est très agréable parce que vu qu'on ouvre, c'est une double page, on a l'ambiance. L'ambiance et l'atmosphère en bande dessinée est assez incroyable parce qu'il suffit juste d'ouvrir un livre et paf, on a l'ambiance et tout nous surgit. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça que les grandes BD des maîtres comme Richard Corben et tout ça sont des grandes BD de science. On a des très grandes BD de science-fiction, on a des très grandes BD d'horreur, de genre et tout, et c'est super.
Ça a l'air bien en tout cas, je vais le lire.
Il serait temps, oui. On le reçoit bientôt en plus, dépêche-toi de le lire. Bastien Vivès est notre invité chez Casterman, il publie Une Sœur. Oui, il y a 212 pages.
Mais ça ne coûte
que 20 euros. C'est formidable. Vos oreilles ont sifflé d'ailleurs, puisque au-delà d'avoir souhaité la venue de Bastien Vivès, vous aviez d'autres choses à nous raconter sur lui, Leïla.
Pas mal de choses, mais surtout en lisant votre bio, Bastien Vivès, vous avez une bio. j'ai été
officielle.
J'ai un peu ri, j'ai souri quand je pense à votre rapport à la politique. On va dire que vous avez un rapport
au Front National,
plutôt,
il peut le dire.
Diffus. Hein, on va dire qu'il est plutôt diffus, ce rapport. On va placer l'ambiance comme ça. Vous dites par exemple que longtemps vous avez demandé à votre mère pour qui voter.
Oui, maintenant je demande toujours aux gens autour de moi pour.
Je croyais que c'était vos parents maintenant qui vous demandaient pour qui voter.
Non.
Ça n'a pas inversé.
Non, j'ai un rapport à la politique. Je pense que c'est pas très intéressant. Il vaut mieux même pas que j'en parle. Il faut que je continue à faire des BD. Et c'est pour ça que si les artistes pouvaient continuer à faire juste leur art et essayer d'éviter la politique, ça éviterait quand même.
Parce que vous prenez un exemple qui est drôle en disant, moi, on me dit pas ce qu'il faut que je mette dans mes BD. Donc, je suis pas compétent en politique. Pourquoi?
Mais
on
j'y connais rien. Même si je m'y intéresse un peu, je connais pas tous les dessous, le machin. Je pense qu'il vaut mieux laisser ça à des gens qui, dont c'est le métier. Moi, je fais confiance à la professionnalisation aux professionnels, quoi. C'est un chirurgien, j'aimerais pas qu'il demande l'avis aux gens avant de m'opérer pour un truc. Ils me disent pas genre, alors qu'est-ce que vous en pensez, je vais plutôt là. Non, je dis mec, fais ton taf. Non, mais c'est vrai.
Mais c'est très intéressant.
C'est vrai que d'un coup, quand on image du chirurgien, on se dit il a pas tort.
Mais en même temps, si on vous retire le droit de vote,
retirait le droit de vote, je serais assez content.
Mais moi,
si je fais une démarche personnelle pour qu'on me le retire à moi, mais on vous le laisse à vous, il n'y a pas de problème. Je préfère vous faire confiance à vous.
Donc c'est
ça
considéré...
s'appelle l'abstentionnisme.
Ouais, voilà, c'est ça.
Faire confiance à nous, c'est de la folie.
Ça marche.
Et là, la dernière présidentielle, les législatives qui s'annoncent, vous l'avez traversée avec du dessin.
J'ai suivi, mais en fait, très vite, heureusement, maintenant, il y a Internet, on fait des tests, et puis ils nous disent pour qui il faut voter. Mmh. Parfait, il m'a dit pour qui il fallait voter. J'ai voté, je continuerai à voter.
J'ai fait ça aussi. Mais la boussole.
J'ai fait le truc, comme ça, c'est génial.
En fonction de critères bien définis, ça vous donne le nom de votre candidat.
C'est drôle.
Ouais, c'est ça.
Et vous avez suivi ça.
Ouais, j'ai suivi à fond. Mais c'est bon, j'avais trouvé, ça m'a rassuré.
Ce qui est drôle pour l'avoir fait ce test, nous avions un spécialiste qui nous avait parlé de cette boussole qui était publiée sur Internet. Ce qui est drôle, c'est de se dire, même quand on sait, ce qui était mon cas, je savais pour qui je voulais voter, mais j'ai quand même fait le test en disant, est-ce que je me suis fait avoir ou est-ce
que c'est réel ou pas.
Non, mais c'est drôle. Mais
c'est scientifiquement prouvé.
Je l'ai fait faire à plein de potes autour de moi. C'était incroyable comme c'était efficace. Et il n'y a que deux personnes, on va dire, sur 20 qui ont été surpris entre le résultat et le test. Mais c'est amusant que vous l'ayez fait aussi.
Pour rigoler un petit peu. Mais quand même, si le test a été contre mes opinions, j'aurais pas.
Ah, donc vous avez des opinions quand même.
J'avais quand même un truc, je me suis dit, j'aime bien.
Quel faux cul quand même.
Mais justement, ce désintérêt de la politique, est-ce que vous avez la sensation d'appartenir à une génération désenchantée qui.
Non, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que ma génération, n'importe quoi, mais ils sont tous à fond, là-dedans. Il y a que ça qui éclate tout le monde. Les politiques sont devenus des superstars. On les invite sur les plateaux télé pour donner leur avis sur je sais pas quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Enfin, je veux dire, les hommes politiques, c'est bien, mais qui taffent. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de savoir leur vie, j'ai envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, je n'arrive pas vraiment à comprendre cette espèce de politique superstar. Et surtout, et même, il y a des questions qu'on va te poser, genre, c'est qui le mec qui a le plus la classe, ou c'est qui la nana qui est la plus jolie en politique. Tu dis, mais c'est quoi ces questions? On s'en fout de savoir s'ils sont jolis ou pas. Je demande, putain, qu'ils fassent le taf.
On demande pas pour ton chirurgien, quoi.
Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est truc. Après, si on devait faire les mecs qui ont, je sais pas, moi j'aime Taubira, je la trouve super, même en tant que personne et tout, mais c'est parce que aussi elle taffe très très bien. C'est pas parce que, je sais pas, sur les plateaux, elle fait le.
Elle a la gouaille, elle a la tchatche.
Ouais, elle a la gouaille, elle a la tchatche et tout ça, mais elle a
du lyrisme quand même.
Et puis elle a des bonnes idées pour des lois aussi. Ce qui compte dans le taf et dans exactement ce qu'on lui demande.
J'aime aussi notre ami, comment il s'appelle
Jean-Marie.
Ouais, voilà, non. Jean-Marie, c'est mon papa, il s'appelle Jean-Marie. Mais oui. Non, non, mais par exemple, Borlo, j'adore ce mec, il est trop bien, quoi. J'ai juste à l'écouter, je le trouve super. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas que je vote, je peux voter un peu n'importe où.
Jean Lassalle, il vous a plu, peut-être.
Mais Jean Lassalle était super. Ouais. Je l'ai vu, en fait, tu vois, je le vois à la télé, j'ai envie de voter.
Il a eu une cote auprès des jeunes, c'est un truc.
J'ai envie de voter pour lui.
Mais parce qu'il faisait rire.
Il a fait plus que, il a fait plus que Poutou.
Je savais pas.
Non, non,
mais je crois que la salle, il faisait rire.
À quel point c'est un problème. Si en fait, je vois Jean Lassalle et au bout de 5 minutes, j'ai envie de voter pour lui alors que je connais absolument pas son travail, je sais même
c'est
pas
ce qu'il fait.
C'est un problème, ça. Il y a un souci.
En tout cas, c'est le problème de cette élection, c'est qu'on a plus parlé de la périphérie que du programme et de ce qu'ils avaient comme idée.
S'il portait des baskets ou pas, s'il est en bagnole ou pas. Mais voilà, c'est n'importe quoi.
Si sa femme bossait ou pas.
Ouais,
pas de polémique.
Voici le grand retour d'Alison
Wheeler. Arrêtez, non mais bon. Moi aussi, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Vous m'avez tellement manqué tous, sauf pour l'un d'entre vous. Et vous remarquerez que je reviens la même semaine sur Inter que Thomas Pesquet sur Terre. Coïncidence? I don't think so. Le mec aime les étoiles, il va en avoir pour son argent. Mais là n'est pas le sujet. Non. J'ai vu que le projet de loi sur la moralisation de la vie politique a été reporté à dans environ 5407 ans. Bah ouais, c'est un vaste sujet. Moi, j'avais pas compris. Je pensais que la loi suffisait. Attendez, si on vit une époque où il faut faire une loi morale, c'est qu'il y a une couille dans le pâté, non? Vous pensez qu'ils vont faire une loi pour avoir une justice juste ou bien des fonctionnaires qui fonctionnent? Putain, c'est une excellente idée. Mais la moralisation de la vie politique, ça signifie quoi? C'est respecter des objectifs déontologiques. Et la déontologie, c'est respecter les objectifs de l'éthique. Mais l'éthique, c'est aussi respecter la morale. Mais dites donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Heureusement qu'il vit pas en Tchétchénie, celui-là. Moi, je pense que c'est une excellente idée, cette moralisation. Mais je trouve quand même que c'est un peu moralisateur, non? Bon, comme toujours, faut balayer devant sa porte. Par souci de transparence, je ne porte plus de sous-vêtements depuis France 98. Deuxième but de Turamoula. Cette chanson est dédiée à tous les politiques qui travaillent tous les jours pour être meilleurs. Parce que c'est difficile dans la vie d'être un homme politique honnêtement moral. Financer une campagne, vous savez pas comment. C'est la S. Des fois t'es obligé un peu de te servir dans la caisse. Vous savez pas la politique, c'est la misère. Celui qui n'a jamais volé 1 million leur jette la première pierre. S'ils mentent à propos de leur patrimoine, c'est juste la pudeur. Ils ont pas tous le CV d'un moine, mais ils ont déjà l'odeur. Vous allez regretter de leur demander d'être honnête. C'est comme demander à Daniel Morin son historique internet. Wow, 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 wow. Ils essaient d'être discrets quand ils enfreignent la loi. Wow, 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 wow. C'est vous avec votre presse, vous voulez tout savoir. Laissez-les tranquilles, laissez-les tranquilles. L'erreur est humaine et un ministre c'est humain. Les filles de Bruno Leroux méritent l'argent qu'elles ont gagné. Moi jamais je n'accepterai d'être sa fille sans être payée. Et c'est pas tous les jours facile d'être gentil avec Jean-Vincent Passé. C'est encore plus difficile que d'être placé avec Jean-Vincent Gentil. Vous savez pas ce que c'est de vivre avec l'immunité diplomatique. De jamais avoir peur en présence d'un flic. Quand on sait qu'on ne risque jamais rien, c'est tentant de taper dans la peau de Perlin. Pam, pam. Oh non, non. C'est pas parce que les politiques prennent les gens pour des jambons qu'ils ont pas le droit d'avoir des actions chez Fleury Michon. J'ai le blues du politicien. Un coup de cafard, un coup de boutin. On peut pas demander à tout le monde d'être du chamboulin. Chamboulin. Oh. Wow, 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 wow. On a tous un jardin secret. Wow, 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 wow. C'est juste qu'ils ont un grand jardin. c'est quoi? C'est humain! Cahuzac, petit ange parti trop tôt. T'es venu, petit cheval fougueux, fauché au galop. Berlin, Pantin, Ricard.
Bravo! Quel retour!
Et ce qui m'agace, c'est qu'on entend sur les antennes des gens qui viennent et qui se disent chanteurs, et c'est mille fois moins bien qu'Alison.
Clairement. J'ai adoré le groove de la bonne aussi. C'est qui le musicien?
Franchement, j'en sais rien. À chaque fois, j'échappe des trucs.
Non, mais il est vachement bien.
Je pense qu'il faut prévoir un prime spécial, Nagui.
Oui, plus tard.
Mais c'est vrai, c'est très vrai.
On retiendra, on a tous un jardin secret. Il y en a qui ont un jardin plus gros que les autres, c'est tout. Merci, Alison Wheeler. Bastien Vivet, c'est notre invité. Il signe une sœur chez Casterman. Nous, là, c'était notre petite sœur qui était revenue à la maison. Et on va écouter en musique, justement, quelques années de votre carrière, de votre vie, ce que vous écoutiez notamment dans votre jeunesse, comme Genesis d'abord. Vous avez choisi ce titre pour le Jesus He Knows Me, Jésus me connaît, ou parce que c'est Genesis?
Non, parce que je parlais pas encore anglais à cette époque. J'étais tout petit. Et c'était en 91, je dois avoir 6 ans. Et non, je me souviens que c'était un de mes premiers albums. Et j'avais appris cette chanson par cœur. Et j'avais une babysitter qui était anglaise. Et quand elle est revenue, j'avais appris la chanson par cœur. J'avais mis tous mes pins sur ma veste. Mais elle est arrivée vers 22h et je dormais déjà. Mais j'avais appris la chanson par cœur juste à la phonétique.
Pour faire plaisir à votre
anglaise. Quand elle revient, j'avais appris la
justement,
chanson.
Justement, parlons un tout petit peu de votre enfance. Vous avez grandi avec une maman qui travaillait dans une société d'animation, un papa qui s'occupait de décors au cinéma. C'est-à-dire vous avez totalement baigné dans l'art et la manière de
travailler. Ça c'est sûr. Oui, puis même il y avait et la bibliothèque et les films et tout. On pouvait prendre tout ce qu'on voulait, on regardait tout ce qu'on voulait. Et les seuls films qu'on nous interdisait, c'était pas parce qu'il y avait du cul ou de la violence et tout ça, c'est parce que l'intrigue était peut-être un peu trop compliquée, qu'on n'allait pas comprendre et qu'on allait passer un mauvais moment. Ce qui fait qu'on avait vraiment une notion de
plaisir.
Plaisir. Et ça, c'était chouette. Et non, je suis totalement reconnaissant de toute l'éducation artistique déjà que m'ont donné mes parents.
Ouais. Est-ce que de la même manière que vous demandez à vos parents pour qui voter, vous leur demandiez quoi écouter comme musique, c'est eux qui étaient prescripteurs.
Non, mais mon père, en fait, à un moment donné, mon père avait râlé parce qu'il n'arrivait pas à retrouver son CD de Louis Armstrong parce que ses fils lui avaient piqué. Et quand, franchement, ton seul problème, c'est que tes gamins te piquent ton CD de Louis Armstrong. C'est un peu cool, voilà. Donc,
c'est un gaz quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Tu veux écouter ton CD Louis Armstrong et tu veux pas.
Vous avez parlé des Gobelins, qui est l'école par laquelle vous êtes passé pour apprendre à travailler dans le monde du cinéma, des storyboards et autres. Vous avez su à partir de. C'est comme dans Une Sœur, c'est-à-dire que les enfants, les deux garçons dessinent extrêmement bien, papa leur apprend à dessiner, ça c'est la part autobiographique de...
Oui, je dessinais tout le temps avec mon frère, et à un moment donné, moi je me suis accroché un petit peu plus, et peut-être que aussi mon frère, par comparaison, a lâché un petit peu plus de dessin, même s'il y est revenu aujourd'hui. On faisait des cours de croquis de nu, on avait 10 ans, on allait dans les académies avec mon père le week-end, et puis c'est pour ça.
Donc vous saviez déjà que vous voulez faire.
Dessinateur. Et au début, je devais même refaire le même métier que mon papa, qui était matte painter. Mais après,
matte painter, ça veut dire s'occuper des décors de cinéma.
Il peignait à l'époque, c'était du glass painting, il peignait sur des plaques de verre des décors, et puis après, il les refaisait sur ordinateur. Bref, c'est. Mais.
Il a bossé avec Bilal.
Voilà, il a bossé avec Jeunet, avec plein de monde et tout. Ouais, René aussi. Donc ça a été. Au début, je voulais presque refaire ça. Puis très vite, en fait, je me suis rendu compte. Maintenant, je préférais raconter peut-être un peu plus des histoires. Là, mon père était vraiment plus peintre illustrateur.
Puisque vous deviez, après les Gobelins, normalement, la logique aurait été de faire du cinéma. Pourquoi ne pas avoir.
Mais en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 ans que j'étais quand même assez nul en animation. Et après, surtout, non, on a des cours de cinéma d'Alain Monclin. Et là, c'est la révélation. Il me dit, ok, donc en fait, si je ressens telle émotion à tel moment du film, c'est parce que la mise en scène et toute la réalisation est faite dans ce sens-là. Et en fait, on commençait à comprendre pourquoi est-ce que je ressentais les émotions en regardant des films. Et donc, je me suis dit, en fait, je peux raconter des histoires. Il y a un vrai langage. Et donc, la mise en scène, je me suis dit, je sais dessiner. J'ai envie de raconter des histoires. BD, hop.
En 2006, vous écoutiez Jacques Brel.
La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom.
Vous écoutez Jacques Brel dans quelle conditions, j'allais dire? Est-ce que vous vous asseyez, vous écoutez, vous êtes concentré, vous êtes dans le noir?
On écoute
rarement cette chanson en barbecue avec des potes.
C'est mon chien de fusil, l'homme de la Manche.
C'est mon pote Merwan qui fait de la BD aussi, qui est un très grand auteur de BD et avec qui je fais ma première BD. Juste, je vais chez lui et puis je dessine ma BD et il me fait écouter du Brel. Et j'adore parce que ça tombe aussi à un moment donné où j'étais obsédé par l'idée de comment raconter une chanson, comment créer des personnages. Et quand même, Brel, pour le coup, avec Brassens, avec d'autres, ils sont vraiment des experts là-dedans.
Et là, c'est l'homme de la Manche.
C'est Les Marquises.
Ah, Les Marquises, ouais. Ouais. La ville s'endormait, c'est le titre.
C'est qui est son plus bel album pour moi.
Vous avez une vingtaine d'années quand vous publiez votre premier album.
Ouais.
Elle,
ouais.
Donc déjà la présence féminine.
Ah oui, ça sera le fil rouge. Hein.
C'est l'obsession des courbes féminines.
Non, mais c'est juste parce que j'y pense tout le temps, quoi. J'arrive pas.
Oui, mais vous n'êtes pas le seul. Hein. Moi, j'en fais pas des bandes dessinées. Hein.
Nagui, il a fait de la tôle pour ça. Je vous en tirerai pas mal.
L'album va être réédité là.
Il a été réédité. Ouais.
On ressent quelque chose de particulier à la signature d'un premier contrat, à la publication. D'abord, vous avez trouvé que c'était. Vous vous êtes dit, enfin, je suis publié, ou ça va vite.
Non, parce qu'en fait, je commence ma première BD, je la montre à des éditeurs, et puis ils me disent, ok. En fait, ça s'est passé assez facilement,
Déjà chez Casterman.
Oui, parce que en fait, dans la BD, c'est quand même, tu rencontres assez vite des éditeurs, tu peux montrer des projets. J'avais fait quelques pages, et puis et aussi, il faut dire que j'étais aussi entouré d'une communauté où j'étais avec pas mal de gens sur des forums, des choses comme ça. Donc il y avait aussi des auteurs de BD, donc ça va très vite. En fait, tu récupères très vite les informations. Comment est-ce qu'il faut faire, quel dossier il faut montrer. Et en fait, ça a été accepté parce que Didier Borg, mon éditeur, venait d'arriver chez Casterman. Lui, il venait pas du tout, il venait de Canal+ et tout, il venait pas du tout de la BD. Il a dit, ça a l'air d'être chouette ce qu'il fait. Il dit, est-ce que je peux l'éditer? Ouais, vas-y, bon, hop, ça s'est passé, quoi.
Oui,
vraiment, il y a
ça.
Un alignement des planètes, parce que normalement, elle, quand on regarde le bouquin, jamais il aurait dû être édité chez Casterman à l'époque. Parce que c'est pas.
C'est quoi, c'est pas la ligne éditoriale?
C'est vraiment la ligne éditoriale, c'est vraiment une maison auteur, c'est pas BD plus adulte et tout.
Oui, mais avec des collections comme Caster, avec un K, il s'ouvrait à des créateurs.
Voilà, ils avaient voulu faire une espèce de label jeune, et au moment où j'envoie mon truc, j'ai label jeune, il y a le label jeune qui vient d'ouvrir, mais vraiment, j'ai eu un gros coup de cul.
Et là, ils ont eu du flair et ils ont encouragé.
Ouais, ils ont encouragé pas mal.
C'est le résumé de votre vie, c'est le cul, quoi.
Ouais, j'ai vraiment de la chance. Je vais le payer.
J'ai dit Caster avec un K, là.
Je suis en train de dire là, je suis page 138, c'est vrai, vous galérez avec les vélos. Hein, c'est n'importe quoi. Hein. Je crois que c'est une mobilette. Hein,
en 2009, Bastien, écoutez. Amore mio, hai già mangiato? Non. Mais vous avez 30 ans de retard.
Lucio Battisti, je découvre.
Encore à tout.
Mais oui.
Encore à tout. Mais j'écoutais ça dans les années 70, c'est pas possible.
Pour draguer.
Comment? Non. Non, tu dragues pas avec encore là tout.
Oh, mais si, une nana, quand t'es avec une fille, que vous mettez vos chacun monte sa musique, tu balances encore à tout de Lucio Battisti, c'est génial, ça marche toujours.
Vous l'avez fait, Nagui. À l'époque, vous faisiez appeler Nagini même. je suis DJ à Capri.
C'est après la période Nefertiti.
Nagini.
Ça fait pas Nini, c'est moche.
Tu veux écouter mon mix?
La voiture loup, j'avais à moi.
Avec un petit mulet.
Encore un café. Bon, mais on est d'abord là pour parler de Bastien.
Ouais,
un jour, vous m'inviterez et vous me demanderez ce que j'écoutais comme musique.
Oui.
Encore à tout, donc Lucio Battisti, comment vous êtes tombé là-dessus?
Non, mais en fait, je suis surtout tombé sur une italienne. Et en fait, on a vécu 15 jours incroyables. Et j'ai cru que ça pourrait durer toute la vie. Et puis après, ça a duré 4 ans de je vais apprendre l'italien, je reste accroché, j'en peux plus, j'arrive pas à m'en sortir dans la vie. Et donc c'est là où j'écris le goût du chlore, j'écris après même et à la fin heureusement il y a Paulina qui m'a remis un petit coup de boost pour dire allez, remonte la pente quand même parce que ça fait quand même 4 ans et donc là c'est que j'apprends l'italien, j'écoute que de la musique italienne. Heureusement que j'en suis un petit peu revenu quand même, mais ça reste, mais je garde quand même Lucio Battisti.
Mais évidemment, faut garder le meilleur dans la vie.
Et c'était déjà des ados, hein, le goût du chlore.
Ouais.
En 2009, amours, vous recevez d'ailleurs pour le goût du chlore le prix révélation du festival d'Angoulême. C'est la Mecque,
C'est la vengeance, c'est la vengeance ultime. Elle m'aura donné 15 jours et je... Non, je rigole.
J'ai pris un prix.
J'ai pris. Non, non. Mais comment, pardon,
elle, ouais, est, elle, est dans, oui. Elle est dans les remerciements cachés
Ouais, ouais, elle est dans les remerciements aussi. Mais non, mais... non, après, non, Angoulême, super.
Un prix, c'est quoi? Ça vous rend plus sûr de vous dans, ce que, dans ça, les risques ça, à prendre?
Surtout, ou... le rapport avec l'éditeur change un petit peu. Et c'est vraiment le seul avantage du prix. C'est qu'après, on peut se dire, ah bah tiens, j'ai envie de raconter autre chose, des sujets peut-être plus personnels ou plus casse-gueule. Et ben, on peut aller voir des éditeurs, ils vous prendront un petit peu au sérieux. Donc ça, c'est pour le coup, j'ai toujours reçu... Bah là, ce prix-là, il tombait parfaitement. Quoi.
Encore les premiers émois amoureux, encore ouais. ça vous plaît, ça vous travaille.
Ah, ça, ça va durer un peu.
Puisqu'on parlait de musique italienne, alors ça m'est revenu la musique italienne sur laquelle que je joue en disant ça va te plaire.
Ah bah Pido dans le vieux.
Ah voilà.
Ça c'est pour Pécho, Nagui.
Non, elle est quand même très très bien cette
elle
chanson.
Elle est super sexy. Non
ouais, ouais, aussi, pourquoi pas non,
c'était
mais...
une époque.
Ouais. Non, si, ouais. ça marche.
T'as déjà entendu sa voix? Écoute.
Ah oui. C'est un poil rapide.
Il a une voix de gangster.
Il faut 4-5 mojitos.
Bastien.
Là-dessus, tu peux danser un petit peu tranquillement. Voilà, oui. Et sur celle de Lucio Battisti, t'es dans un canapé.
Ok, d'accord. En 2012, le succès donc de Paulina arrive. À ce moment-là, vous écoutiez.
La déprime. Bid Lake.
Là, tu danses sur le canapé.
Non, là, je suis tout seul. Là,
t'es seul. T'as plus de canapé, t'as plus de nana.
Seul. La BD, c'est sérieux. C'est toute ma vie. Voilà. L'art avec un grand A. J'avance. La procession est en marche. Le 9e art.
Dans la douleur.
Et je vais mourir seul.
Voilà. Non, mais c'est tout, là. Chaque soir, l'angoisse qui monte comme ça.
Mon père qui s'appelle Jean-Marie. Toutes ces choses.
Jean-Marie.
Paulina, c'est quoi? C'est le génie, c'est l'excellence.
Paulina, c'est l'art avec un grand A. Oui, c'est là où j'ai envie de parler quelque chose qui sort un petit peu juste de la rencontre homme-femme. Dans Paulina, je veux parler de qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est de l'artistique. Tout ça. Et vraiment, je pense que c'est un.
Et c'est se battre aussi.
Oui, voilà. C'est comment est-ce que tu fais un peu ta voix là-dessus. Et je pense que c'est un des livres dont j'ai fait. Un des livres que j'ai fait, pardon. Je suis. Le plus content quand même. Je suis vraiment
avec
content.
Le recul,
ouais, avec le recul, parce que je trouve que
tout ce que je voulais
raconter, les sentiments que je voulais mettre dedans et le discours que je voulais avoir, il est cohérent et j'ai l'impression qu'il est bien passé. Et ça, pour le coup, je suis assez content parce que quand un bouquin sort, on sait jamais trop comment est-ce qu'il va être perçu.
Oui.
Donc vous n'aimez pas une sœur, alors finalement.
Si, j'aime beaucoup aussi une sœur. Mais Paulina, à ce moment-là, ça m'a fait du bien, puis surtout j'ai mis un an et demi à l'écrire, ce qui est beaucoup pour moi.
La reconnaissance ultime quand on est créateur comme vous, ce sont lorsqu'on a un prix à Angoulême, lorsque vos pairs, d'autres dessinateurs reconnaissent votre talent, c'est lorsqu'on est racheté en termes de droits pour faire un film comme Paulina avec Juliette Binoche, on l'avait d'ailleurs reçu pour ce film l'année dernière. Quelle est la reconnaissance ultime, ou c'est simplement
Non, mais ça reste toujours la même chose.
Le public et les ventes. Enfin,
mais non, mais c'est le papa qui te met la petite tape sur le dos, c'est tout. Ces trucs-là, c'est dès que en fait quelqu'un vous dit même qu'il a bien aimé ce que vous faites, ou même que ça l'a touché, ou dit que ça l'a accompagné dans quelque chose, c'est toujours ça qui est intéressant. Après, quand je parle, quand il y a les prix, quand les autres auteurs vous disent que c'est bien ce que vous faites et tout, mais c'est chouette, ça permet juste d'avancer professionnellement, mais après pour se charger émotionnellement, ça reste quand même. Que dès quelqu'un vous dit qu'il a bien aimé son histoire, que ça lui a plu, mais oui, c'est évident.
Les premières émotions, les premiers émois, les premières caresses, la découverte de son corps et du corps de l'autre, toile de fond également de cette bande dessinée, de cette histoire, une sœur. On a demandé à Isabelle Claire, sociologue. Merci Isabelle.
Bonjour Isabelle.
De venir à notre micro. Vous êtes chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire Crespa GTM. Vous
avez Iris, pardon, c'est pas grave pour l'émission.
Ah, ça a changé
pour moi. Oui, oui. Ça a changé.
Ok, excusez-moi.
Ma fiche date
de 72, donc en même temps,
c'est ça. Il y a quelqu'un qui va se faire virer.
Vous
commencez à être peu là-bas en régime.
Ça va tabasser après. Hein.
Vous avez réalisé des enquêtes ethnographiques sur la vie quotidienne de jeunes au moment de leur entrée dans la conjugalité, justement, et ça parle de sexualité, cette bande dessinée. Est-ce qu'il y a un âge auquel on peut commencer à parler de sexualité aux enfants, ou tout est relatif, ça dépend de l'éveil de certains ou du retard d'autres.
Alors moi, je suis pas prescriptrice de normes, hein. Je travaille plutôt à les déconstruire.
Non, donc, analyser.
Je sais pas à partir de quel âge. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les gens sont sexuels très tôt, enfin que la sexualité arrive très tôt dans la vie des enfants.
Mais et en très fait, tôt, c'est quoi? C'est 4-5 ouais. ans ou c'est 10-12 ans? Quelle est votre notion de très tôt?
La masturbation, la relation, c'est bien avant ça.
Hein. Avant 5 ans?
Ah oui, c'est bien avant 5 ans.
D'accord.
Ouais. Mais dans quelle ville?
dans toutes les villes en fait. Il suffit de regarder, gamins,
les
enfants.
Ils se tout le temps, même quand ils sont à plat ventre comme ça.
Oui d'accord. J'appelle pas ça la masturbation.
Ils font pas leur premier pas, ils font pas leur premier pas.
Non, mais les enfants se caressent tôt. Mais bon, voilà. Mais en fait, on leur parle de sexualité.
Excusez-moi, il faut que je rentre chez moi parce que mes enfants. J'ai raté des trucs.
Mais toi, tu rates la notion de ces choses-là, Nagui. Depuis que t'as des assistants pour tout et n'importe quoi,
c'est ça.
Le domaine est devenu différent.
Mais il y a peut-être justement des choses que les parents ne doivent pas aussi savoir et laisser l'intimité aux enfants.
C'est sûr. D'ailleurs, on dit souvent, surtout aux petites filles, arrête. Voilà, parce que c'est le truc, notamment au moment où on enlève les couches, donc une petite information sur la toute petite enfance, c'est le moment où les enfants vraiment ont accès à leur partie génitale, si on parle de sexualité oui. juste dans le sens des pratiques sexuelles, oui. parce que c'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup ça. Et en fait, à partir du moment où les enfants n'ont plus de couches, ils ont un accès beaucoup plus direct à leur propre corps et à leur partie génitale. Et une des grandes choses, c'est d'avoir une certaine fierté, y compris dans les discussions entre copains de parents, quand le petit garçon, c'est bon, a trouvé où c'était, ce que ça pouvait faire, est-ce que ça pouvait donner comme plaisir. Par contre, pour les petites filles, c'est un petit peu plus problématique parce que c'est immédiatement jugé obscène, y compris sur la table allongée, ou c'est vécu différemment par les parents des deux sexes, d'ailleurs. Voilà. Que les mères qui changent les couches.
La manière d'en parler et j'allais dire la porte d'entrée du discours du verbe. Est-ce que ça peut être par la bande dessinée justement? Est-ce que on peut pas c'est pas le genre de sujet dont on parle à table en famille devant les grands-parents et les voisins? C'est de le faire en tête à tête dans votre analyse. Encore une fois, vous n'avez pas de conseils à donner, mais de ce que vous avez pu observer.
Ouais. Mais en fait, le discours, ce qui est compliqué avec la sexualité, c'est que ça relève de l'indicible. Enfin, on voit bien que c'est compliqué. Je reviens sur les parties génitales, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de touche pipi, de chatte. Enfin, il y a rien que les mots, en fait, pour dire les parties génitales et la sexualité, c'est compliqué. On sent bien que ça, c'est pas fluide. Enfin, c'était fluide, hein, la discussion, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de nommer, en fait.
Et mais encore plus à la radio, à midi, on se dit quel mot employer. Est-ce qu'on dit zizi et zézette pour pas choquer?
Moi, je dis zizi.
Et tu dis pas zézette?
Non.
Craquette?
Craquette.
Non,
je sais pas, il y a deux enfants qui sont venus écouter l'émission.
Ça. Et alors, trois même.
Ils apprennent énormément de choses.
Non, je pense
en même
qu'ils disent
ils savent déjà.
Mais oui, t'inquiète pas.
Vous dites zizi.
C'est eux qui vont t'apprendre.
Ouais, des zizi. Mais...
J'aime bien. Elle s'est tournée vers un garçon en disant on dit zizi. Le garçon a fait. Mais il y a 5 ans, je dis top, c'est quoi ton
problème? Non.
Mais il a en tout cas, elle dit ça.
Non, je dis rien du tout. Continuez.
Elle dit ça aussi.
Non mais alors oui donc.
Non mais on voit bien on rit beaucoup. Enfin voilà, parler de sexualité, c'est enfin ici on rit d'une façon générale, mais je veux dire ça crée de la gêne, ça crée du malaise. Dès qu'on parle de sexualité, de sa propre sexualité, en fait on l'échange devient sexuel lui-même. Donc dans la relation entre les parents et les enfants, ça crée beaucoup de difficultés. Pas seulement parce qu'on parle d'un truc compliqué, mais parce qu'on parle de soi-même en fait et qu'on parle de son propre rapport à ça, ce qui fait que le discours sur la sexualité peut être compliqué et souvent
prend d'autres
formes.
Il a évolué avec les générations, c'est-à-dire qu'on a tendance à en parler de plus en plus. En disant il faut parler aux enfants comme à des adultes et pas les rabaisser ou parler d'une manière gnangnan justement avec des diminutifs qui ne veulent rien dire. Sauf qu'il y avait des générations et des siècles où les parents ne parlaient absolument pas de sexualité avec leurs enfants. Ça n'a pas non plus forcément engendré des malades sexuels ou des malades mentaux. On sait pas. Bon, enfin, ça va, on est là, on est vivant.
Non, mais en fait, les parents parlent pas tant que ça, hein, de sexualité, parce qu'on a toujours cette idée que maintenant ce serait tellement dans la modernité, enfin on parlerait de sexualité. Non, en fait, les parents parlent très peu de sexualité. C'est plutôt les mères, d'ailleurs, qui en parlent. Les sociologues qui parlent du travail sanitaire des mères.
Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec vous.
Mais non, mais après, il y a des exceptions.
Non, je suis pas...
Nagui est une exception.
Pardon, mais j'en parle avec mes enfants que s'ils m'en parlent. Moi, je n'irai pas.
Ce qui est gênant, c'est quand on parle aux enfants des autres. Là,
j'irai pas spécialement parler, mais si d'un coup, l'un des enfants franchit le pas en disant j'ai une question à poser, c'est pas va voir ta mère, c'est elle qui va te parler. Ça, non.
Enfin, non, mais il y a des évolutions. Hein. Je dis pas que rien ne bouge, mais c'est vrai que moi je le vois en tout cas dans mes enquêtes, dans les milieux sociaux différents, ça reste quand même un discours minoritaire et le discours passe plutôt par la contraception, par exemple. On demande aux filles est-ce que t'as bien pris ta pilule, t'as pas oublié de prendre ta pilule, t'es sûr que t'as pris ta pilule. Bon, donc ça, par exemple, c'est un discours
qui revient
beaucoup.
Est-ce que tu t'es bien lavé aussi ? Ça passe aussi par la toilette,
par l'hygiène, etc. Donc on parle plutôt et on parle de problèmes, la pornographie, la panique. Enfin, c'est le risque. Enfin, il faut en parler hein, des risques, mais c'est beaucoup les règles, donc la santé, la responsabilité, parce qu'avec les règles, il y a des recherches qui ont été menées là-dessus. À partir du moment où les petites filles ont leurs premières règles, les mères leur disent « voilà, maintenant, t'es une femme ». C'est le moment, voilà. Et puis maintenant, attention, tu peux tomber enceinte, c'est la responsabilité des filles.
Ce qui est assez bizarre de comme parallèle, d'ailleurs. Maintenant, tu es une femme parce que tu as tes règles, c'est de ramener. On l'avait dit avec Agnès Jaoui quand on en avait parlé
plus,
ici.
Ça veut dire que tu n'es plus rien.
Voilà, et tu n'es plus une femme quand tu n'as plus de règles. C'est
un peu particulier. On n'est pas vraiment une femme quand on a ses règles. On est hyper jeune pour certaines.
Ah oui. Ouais, après, ça dépend ce qu'on appelle être une femme d'ailleurs.
Enfin, c'est un rite de passage, quoi. C'est comme ça qu'on l'a en tout cas.
Ce sera l'objet d'une autre émission.
Très bien. Est-ce que vous êtes posé des questions, Bastien Vivès, dans votre dessin sur la limite à franchir ou pas dans le dessin et dans le sexuel pour se dire est-ce qu'il faut que ça reste une bande dessinée pour tout public ou
Oui, je pense qu'en fait, quand moins de 12... si c'est fait de manière intelligente, on peut pratiquement tout raconter. Là où ça choque à chaque fois, c'est quand c'est gratuit, quand il n'y a pas vraiment de sens derrière. En fait, je me suis juste arrêté là où l'histoire, où les personnages s'arrêtaient. C'était qu'à un moment donné, ce que je me suis dit, est-ce que je vais aller faire une grosse scène de cul au milieu? Non, parce qu'en fait, c'était pas dans le caractère de... C'était pas surtout ça, ça ne servait pas mon propos. Qui était vraiment sur la découverte, les émois et tout, et donc
il y a montré et suggéré aussi.
Oui, mais moi pour moi c'était important aussi, et je trouve que c'est dans la sexualité adolescente, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que en fait t'as beau avoir vu tout le porno que tu veux de ta terre, quand tu te retrouves devant la première fois devant une chatte ou devant une bite, t'es surpris en fait, tu t'attends pas à ça du tout quoi, et même au niveau des sensations, au niveau de tout, c'est quand même incroyable. Donc pour moi c'était important parfois de pas passer à côté, de dire quand il y avait une chatte, et on montre une chatte.
Ce qui est choquant ici, c'est surtout le vélo. Là, je suis tombé sur une autre page. 179, c'est une cata. Hein.
Juste une dernière question, Isabelle Kerr, sur la manière dont on appréhende la sécurité avec nos enfants. Est-ce que la France, avec l'éducation sexuelle, avec sa liberté d'expression dans les arts, est-ce qu'on est en avance, en retard? Est-ce qu'on s'y prend bien ou pas par rapport à nos voisins?
Oh, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des questions qui sont plus difficiles à aborder dans certains pays.
Vous êtes quand même chargé de recherche.
Oui. Mais sur le retard et l'avancée, c'est toujours compliqué. Ce qui reste très compliqué en France, c'est de décoller en fait la question de la sexualité et de la question de la santé. Enfin, de ne l'aborder que sous l'angle de la santé, notamment par les institutions, quoi, à l'école, tout ça. Et puis d'avoir quand même un petit problème à ne penser la sexualité que dans un cadre de la norme hétérosexuelle et de pas penser la pluralité des sexualités. Enfin, on la pense, mais on en parle assez peu, notamment à l'égard, enfin, en direction des.
Il y a un nous-là qu'on parle bien quand même.
Voilà.
Ça, c'est fait. Merci, Isabelle.
Merci, Cyril, qui nous écoute.
Daniel Morin, on voit que l'éducation sexuelle est primordiale pour les adolescents. C'est important de pouvoir enseigner ça à l'école, surtout à notre époque. On peut trouver tout, malheureusement, sur Internet. Il n'y a pas de.
Dans la bande. Et là, je dis quoi? D'ailleurs, je dis non, t'es la bande. Je dis non. Et à qui?
Il y a des vidéos,
monsieur,
sur Internet.
Comment faites-vous pour enchaîner les niaiseries comme Alison Wheeler enchaîne les maladies honteuses? Non, mais comment faites-vous? Bon, bref, je suis pas là pour dire du bien de mes collègues. Je suis là pour éclairer nos auditeurs et nos auditrices qui, pourtant, on le sait bien, c'est statistiquement prouvé, n'ont plus de relations sexuelles depuis la mort de Pompidou. Et puis, je ne sais pas vous, mais mon moteur de recherche sur mon ordinateur, c'est pas YouPorn ou encore Dirty Pyramid, hein, pervers, salaud. Finirait tendu. Le sexe, c'est sale, c'est malsain, c'est pas bien, que ce soit le zizi, le kiki ou la tub. Et si vous ne m'écoutez pas, acceptez au moins d'entendre un homme qui s'y connaît en sexe, en adolescent également et en saleté. Bonjour François.
Salut mon Dani.
Ça représente quoi pour vous le sexe?
Ça me dégoûte et ça m'excite à la fois. C'est un sentiment attraction-répulsion qui me tourmente.
Je comprends pas bien.
Tu es trop con. Le sexe, c'est comme une chanson de Cigéro.
Oh là, je comprends encore moins.
Écoute-moi ça. Kiss me, embrasse-moi. Quand tu vois la tête du gars, tu te dis, mais plutôt crever que d'embrasser une face de paix comme lui.
Oh non.
Et quand tu l'entends, tu as envie de lui faire des bisous en lui caressant les fesses. Eh bien, le sexe, c'est pareil. Ça me dégoûte, mais j'ai quand même envie de m'y plonger tout entier.
Oui, la démonstration est éclatante, monsieur Green, une fois encore, vous avez dit.
N'importe quoi. Merci, Daniel Morin, à nous. originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadrou-Boudadi.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler. Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Algou.
Bravo Albert.
Et notre invité, le troublant, Bastien Vivès. Bastien qui signe donc Une Sœur chez Casterman. On l'a dit, depuis la présence féminine est essentielle. Elle est au cœur d'une histoire qui peut être d'ailleurs autobiographique, parce que je pense que entre la maison de vacances, le rapport entre frère, père et mère, tout ça, il y a beaucoup de vous dans cette bande dessinée.
Ah oui, mais je pars toujours de choses que je connais un petit peu, mais après vraiment toute cette histoire, ça ne m'est absolument pas arrivé. Donc après c'est
transfiguré, comme on dit.
Voilà. J'ai pas eu d'adolescence, donc.
J'ai pas eu d'adolescence.
Oui, en fait, non, mais j'ai pas eu cette adolescence là, donc.
Vous fantasmez.
Je révise un peu. Ouais, je fantasme complètement.
Est-ce que vous cherchez à rendre les personnages ressemblants? Est-ce que vos parents?
Non, du tout.
Vous rapprochez?
Non, rien. C'est juste que après, je sais pas. Le même. Ce qui est marrant, c'est que le gamin. On pourrait dire, ah, mais il te ressemble, mais quand j'avais 13 ans, j'étais pas tout comme ça, j'étais tout gros, avec une tête toute ronde, et rasé. Donc là, c'est pas grave, je me refais un peu. Mais non,
Vous embellissez les choses.
Ouais. Mais moi, je pense que c'est aussi mon rapport à la nostalgie, à la mélancolie, ouais, tout ça. Dès que je repense au passé, et même c'est horrible, hein, même
tu pour
penser genre à 2013, je repense à 2013, je suis genre, ah putain, c'était quand même tellement bien en 2013. Non, c'est fou, en fait, d'arriver à. Il suffit que ce soit passé.
Vous avez déjà fait une soirée avec Vincent de Lerme, tous les deux?
Ah oui, genre les petites.
Ouais, moi je vois bien.
Gorgées, ouais. Ah ouais, ce serait génial, ouais.
Bah
ouais,
je pense. Et puis les personnages sont très justes, c'est ça, c'est que Antoine, il est très touchant, il a 13 ans. Il joue encore au Pokémon parce qu'il a son petit frère Titi. Ouais. Et il est très tendre avec ce petit frère et en même temps il sent bien que il y a quelque chose qui se passe, voilà, dans son corps, dans son âge aussi. Et elle incarne tout ce qui est débridé d'une certaine façon, en étant à la fois tendre, parce que c'est pas une petite dévergondée.
Bien sûr.
Elle fume, elle boit, elle initie.
Elle a 16 ans. Elle a 16 ans,
ouais.
Bah, elle fume, elle boit, elle a 16 ans, c'est une évidence.
Elle essaye d'arrêter l'alcool.
elle teste en tout cas. Il y a quelque chose de. Voilà, c'est très doux et elle est complexe aussi, cette jeune fille.
Ouais, c'est ça, c'était tout l'enjeu, pour moi, tout l'enjeu du livre, c'était de rendre ce personnage féminin. Je voulais pas que ce soit la bonne fée, elle arrive et hop, c'est génial, tout
oui, c'est super. C'est pas la fille objet non plus.
Non, et je voulais vraiment que ce soit un personnage qui est quelque chose aussi de, je trouve, assez féminin, qui est une petite tristesse comme ça, qu'elle a une, elle se sent seule, elle se sent tout le temps seule. Je trouve que c'est quelque chose, c'est un trait de caractère que je retrouvais chez pas mal de filles.
Elle rêve d'avoir un frère, vous rêvez d'avoir une sœur. Mmh. C'est là où les deux se recherchent un tout petit peu. Tout à l'heure, Leïla, et on va pas le dévoiler, on va laisser le plaisir au lecteur, ouais, parler d'un drame au début, d'un drame à la fin, parce que c'est ce qui donne aussi du piment à la vie, et la beauté de la vie, c'est d'éviter ces drames ou de passer au travers. Est-ce que vous avez un idéal féminin? Est-ce qu'il y a une icône de votre enfance qui...
Non, mais c'est assez drôle parce que
qui
moi j'ai toujours
des fonds d'écran d'ordinateur.
Non, mais j'ai toujours eu une fille dans la tête, qu'elle soit réelle ou pas. J'ai toujours eu...
Et que vous soyez en couple ou pas, vous avez toujours
tout le temps, et c'est quelque chose qui m'a aussi toujours motivé, parce que je fais vraiment la part entre le fantasme et la réalité. Parfois il arrive que les deux peuvent se mélanger, mais alors là c'est comme ça court-circuite tout, je fais plus rien, je me retrouve je suis plus dans l'action ni rien, mais j'ai toujours une nana dans la tête, donc oui, ça dépend, j'ai toujours fait des fixettes.
Mais ça peut être, ce sont des icônes de cinéma, de la mode, de la chanson, que sais-je.
Non, ça dépend.
Tout à l'heure vous avez parlé de Christiane Taubira, mais est-ce que
j'ai beaucoup Christiane Taubira.
D'accord, mais qui d'autre?
Je me souviens quand j'étais petit, alors que c'est pas du tout mon style, c'est assez drôle, c'est pas du tout mon style de nana, parce que j'aime plutôt les nanas avec pas mal de poitrine, de fesses et tout ça, vraiment très très
ronde,
sexuée, ouais, comme on pourrait le dire.
Nadine Morano, quoi.
Hein?
Nadine Morano.
Ouais, un peu dans le genre. Mais même moi, ça m'arrive, genre aujourd'hui, c'est les nanas de 50-60 ans. Je me retourne sur les nanas de 50-60 ans dans la rue. Je me retrouve plus sur la petite nana.
Bastien, vous êtes à l'antenne.
Et donc, en fait,
on entend ce que vous dites.
Non, mais en fait, j'aime bien quand il y a un conseil.
Il y a des très jolies femmes.
Non, j'aime bien ça. Et donc,
c'était qui alors?
Non, et en fait, c'était Anne Parillo. Donc, ah oui. J'ai une énorme fixette sur Anne Parillaud quand j'étais petit. Ah ouais. Parce que, et je ne sais pas trop pourquoi. Et pour moi, c'est la plus belle femme du monde.
La alors beauté à la Jane Birkin dans Blow Up. C'était,
ouais, mais alors qu'Anne Parillaud, elle a un truc un peu dur. Elle est toute sèche. Elle est musculeuse comme ça. Et alors, je me dis, il y a quelque chose de fou. Et je pense qu'aussi, c'était. J'ai l'impression que c'était que le physique. Alors qu'en fait, je pense que c'était aussi son rôle dans Nikita. Que j'adorais, quoi. J'adorais cette nana qui flinguait. J'adorais ce. Vraiment. Et c'est un film qui m'a énormément marqué.
Petite envie de vous faire humilier aussi, de temps en temps.
On trouve ça dans Blast, hein, les nanas qui flinguent.
Oui, oui, oui. Ouais, dans Last Man.
Il faut le dire, je confonds avec du manga. Last Man, ouais, on peut le recommander. Hein.
On peut le recommander, d'autant que
Casterman aussi, c'est formidable.
En septembre, Last Man.
Ah oui, Last Man Back, on a le tome 10 qui arrive en septembre. Et puis,
il y a des vélos dedans.
Et après, les motos qui volent. Et puis après, surtout, il y a la série animée qui était passée sur France Télévisions et qu'on peut maintenant rechoper en replay, des choses comme ça.
Avec Balak et Mickaël Salaville.
Ouais.
Très bien. Il n'est pas venu. Non, il n'y a pas de vélo. Mais il y a des motos. Il est venu, pas vélo non plus d'ailleurs. Ah non, attends, je trouve ça trop mignon. Au moment où je me tourne vers le public pour leur dire Daniel Morin, il y a une maman qui tient la main de sa petite fille en disant
courage.
Pourquoi je suis venu aujourd'hui? Voici Daniel Morin.
Ça va aller, ça va aller. Faut que je prenne quelques passages vite. Mais pas du tout. Allez les amis, c'est le Wall Street Journal qui l'a annoncé hier soir. Apparemment, c'est Paris qui va obtenir l'organisation des JO 2024. Los Angeles sera pour 2028. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je ne sais.
Mais c'est une excellente nouvelle, mon Danny.
Vous croyez?
Mais oui! L'émulation du sport sur toute une ville. L'invasion d'une cité pour ses gladiateurs. L'engouement national devant les performances exceptionnelles. Les JO de Paris 2024, ça va être fantastique! Vive le sport!
Vous êtes sportif, François?
Pas du tout. Je déteste ça. Je trouve que c'est un truc de con, le sport. C'est un spectacle affligeant.
Mais pourquoi vous trouvez ça génial, les JO de Paris 2024, alors?
Mais non.
Mais pourquoi vous venez de le dire?
Merde, je me suis encore trompé. Pas de panique, je corrige. Les JO 2024 à Paris, mais quelle nouvelle de merde! Le sport, y a rien de plus chiant. Tu transpires, tu te fais mal, c'est l'enfer! En plus, Paris va devenir une ville sinistrée, avec 12 touristes débiles qui vont venir. La circulation sera pénible. Les transports en commun bondés. Je déteste l'idée!
Vous avez du mal à avoir une vraie opinion, j'ai l'impression.
Mais pas du tout. J'ai même des convictions et des idées nettes et précises, pour lesquelles je suis prêt à me battre et même à mourir.
Ouais, bref. Alors, apparemment, Donald Trump, je change de sujet, va annoncer que les États-Unis se retirent du protocole d'accord sur le climat signé en 2015 à Paris. Vous en pensez quoi, François? Bonne? Mauvaise nouvelle?
Oh, c'est une nouvelle terrifiante. Le retrait des USA nous montre à quel point ce Donald est un abruti dangereux. Non seulement il ridiculise son pays par son comportement, mais en plus il met l'avenir de la planète en danger. Les problèmes liés à la perturbation du climat sont à prendre à bras-le-corps pour les générations futures. Ce serait de l'accord de Paris est une connerie, enfin ce retrait je voulais dire, est une connerie égoïste, en plus d'être une menace pour notre espèce. J'attends avec impatience une réaction de notre sympathique ministre Nicolas Hulot.
Wow.
Ça rend fou.
Je ne savais pas que vous étiez aussi concerné par les problèmes liés au climat, François.
Ah non? Oh, mais je m'en fous du climat. J'y crois pas une seconde au réchauffement climatique. C'est des conneries de gauchos.
Mais enfin, bon Dieu, vous venez de dire le contraire à l'instant.
C'est vrai?
Mais oui, il n'y a pas 10 secondes.
Vous me surprenez.
Non, je vous assure.
Vraiment?
Bon, c'est simple, la façon et la passion dont vous êtes exprimé, on aurait dit Nagui.
Oh, doucement, Danny. Modère des bobos, je suis pas susceptible, mais vos babousés non plus.
Oui, j'ai été loin, pardon. Pardon. Non, mais je vous assure, vous avez été très très virulent quant à la décision de Trump de se retirer, enfin de retirer les États-Unis du protocole d'accord sur le climat signé à Paris en 2015.
Je vais corriger ça immédiatement.
Oui, s'il vous plaît.
Le retrait des USA du protocole d'accord sur le climat, c'est une nouvelle géniale! Ça nous montre à quel point ce Donald est un visionnaire qui ne se laisse pas faire! Non seulement il en a dans le froc, mais en plus il montre à des abrutis d'ours blancs qu'on n'a rien à foutre de leurs problèmes de banquise! Le problème lié à la perturbation du climat, c'est la flûte, c'est du pipo tout tout tout. Et même si c'était vrai, le réchauffement climatique, ça veut dire que dans 20 ans, il y aura 30 degrés en Bretagne! Ce sera génial! Et tout ça, c'est bien fait pour la gueule de Nicolas Hulot! Ce retrait de l'accord de Paris, c'est brillant de la part de Trump. On devrait faire la même chose.
Sortirez des accords de Paris 2015?
Non, retirez la candidature de Paris JO 2024.
Finalement, vous avez de la suite dans les idées, pardon.
Je te l'avais dit.
Merci François, à demain.
Merci Denis Morin, merci à vous. La bande originale.
Nagui sur France Inter.
Bastien Vivès signe une sœur chez Casterman. Je vous découvre fan de François François.
Ouais, depuis le début, depuis nulle part ailleurs et tout, mais dès que je l'entends, mais c'est incroyable.
Tu es Wiz et fort, toi aussi.
Wiz
Il est ressuscité à la radio, c'est bizarre.
Ouais, on l'aime.
Votre passion pour le football, on en parle en deux secondes.
Ah oui.
Vous aimez ou sans plus?
Bah, j'adore. Et ouais, puis en plus même, ça a l'air encore un peu plus loin parce que j'ai un podcast de football. Je m'amuse aussi à faire les chroniqueurs radio. Ah.
Et justement,
des amis. Ça s'appelle Passement de Jambes.
Quelle est votre vision? Quelle a été votre vision du championnat et de Monaco et qui est en train de se...
Ah non, on a de très beaux champions. Moi, je suis supporter de Paris et je m'incline sans aucun problème devant cette superbe génération. Ah non, elle est incroyable.
Kylian Mbappé, formidable.
Non, mais même tous, ils ont été les Fabinho, Silva et tout. Mais ce qui était, comment dire, ce que j'aime avec le football, c'est que ça réunit quand même les gens, même si il y a plein de choses. Et ça nous a permis aussi de se réunir bande de potes. J'allais dans les bars mater les matchs et tout, et c'est toujours une ambiance que j'aime et j'ai envie de la garder.
Et samedi soir, alors vous serez pour le Real ou pour la Juve?
Eh ben, alors je déteste les deux clubs, mais c'est compliqué. Mais
vous aimez Zidane ou pas?
Voilà. C'est juste parce qu'il y a Zidane, et même vraiment Zidane, en fait, je trouve ça tellement génial que personne n'y ait cru au fait qu'il allait devenir entraîneur au Real. Personne n'y croyait, et il est en train d'afficher l'un des plus gros palmarès de l'histoire. C'est incroyable. Et donc juste pour ça, j'ai envie qu'il la gagne encore.
Clairement. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadroudadi pour Bastien Vivès, notre invité.
Oui Bastien, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous Bastien.
Six of the most beautiful women in the world. Yeah, six. Incredible broad served up from the lusty table of Russ Meyer.
Vous avez reconnu, Bastien,
Meyer,
enfin du bon film.
Super Vixen, l'histoire, c'est celle d'un pompiste qui a l'habitude de se disputer avec sa femme, Super Angel. Un jour, elle est assassinée, donc forcément, son mari, Clint, est le suspect tout trouvé. Il s'enfuit. Pendant son voyage, il rencontre un couple libertin.
Avec le serpent. Et puis après, il va tomber dans la ferme avec Uschi Dilgaard et tout ça.
Il va tomber amoureux de Super Vixen.
Oui.
Dans une station essence. Enfin, elle tient une station essence. Pourquoi vous avez cette fascination pour Russ Meyer et ses gros seins? Parce que
Quand on parlait de sexualité, voilà quelqu'un qui a tout compris.
Qui connaît les femmes. Moi.
Non, mais c'est surtout qu'il est dans le cartoon, il est dans le plaisir total. Et même s'il y a des drames, il y a de la violence, il y a des morts et tout, mais en fait, on est dans une espèce d'ambiance sexuelle pendant tout le film qui est incroyable. Et moi, ça a été vraiment une très très grande rencontre, et ça j'adore. Et le fait de parler de choses très graves quand on y pense, mais avec le côté un peu humour, cartoon et tout.
Ouais, mais en traitant les femmes un peu comme des objets.
Elles ont le pouvoir
souvent, mais
c'est
sûr.
Elles coupent les beats et tout machin.
Ah oui, elles ont des formes qui ont aimé.
C'est incroyable.
Pour faire référence à ça, vous avez publié Les Melons de la Colère, on l'a pas évoqué, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui est handicapée par des seins surdimensionnés. Voilà, pour dire encore qu'il y a un rapport à la poitrine.
D'où le nom Les Melons de la Colère.
Donc ça tranchait un peu avec les autres.
Ce qui change des raisins.
Andy Sport 2024.
c'est un vrai enjeu dans le livre parce que ses seins sont tellement gros qu'elle peut plus aider à la ferme familiale et donc elle devient un poids et elle se demande, comme ils sont en train de parler, peut-être d'une réduction mammaire et qui est. Moi, je trouve que c'est un grand drame et personne n'en parle de la réduction mammaire, mais je trouve ça.
Mais il y a beaucoup de femmes.
C'est un crime contre l'humanité,
c'est un crime. Voilà.
Il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'avoir des
maladies. Elles ont mal au dos.
Ça veut dire, en fait, Bastien Vivès, que quand vous faites des dédicaces, les filles qui vous écoutent se disent tiens, j'ai une carte à jouer quand j'ai une grosse poitrine.
Non, pas forcément, parce que moi, quand je me retrouve devant des nains qui ont de la poitrine, je me trouve un peu bête. Je suis très belle. Je suis toujours très impressionné. De toute façon, je suis très impressionné par les filles en général et encore plus quand elles évoquent chez moi certains fantasmes. Donc ça reste compliqué, mais ce qui m'intéresse, c'est moi ce que j'aime quand la sexualité est vraiment magnifiée. Par exemple, j'aime autant les nains avec d'énormes seins que les mecs avec des énormes bites, quoi. Et vraiment, ça, c'est des choses qui me plaisent énormément.
Vous pensez vraiment que c'est la taille qui compte?
Non, mais moi je pense pas que dans la réalité,
c'est inquiet de la manière dont il a dit le énorme.
Il parle pas du réel.
Non, mais dans la réalité, non, évidemment, un homme, une femme, machin, ou un homme, ou une femme, comme vous voulez, et ben ça, y a pas de problème. Et de toute façon, c'est assez bien foutu pour que tout le monde s'éclate. Mais
la nature est plutôt bien faite.
C'est plutôt bien fait, c'est incroyable. Toutes mes copines, elles ont pas beaucoup de poitrine, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Et par contre, quand on est dans le fantasme, on peut vraiment laisser divaguer son ses esprits. Et ben j'adore quoi, mais j'adore voir des gens qui ont des c'est démesuré, ils peuvent même pas cacher cette poitrine, tout le monde voit qu'il y a cette poitrine, tout le monde voit qu'il y a cette énorme bite, et je trouve ça génial quoi. Et on est comme une espèce de...
Alors je pense à vous parce que chez les Roquins Marteaux, oui, ils ont une collection qui s'appelle BDQ que j'adore. Ouais. J'avais adoré l'Odyssée du Vice de Delphine Panique qui racontait l'histoire d'un cosmonaute Roger qui était envoyé en mission sur une planète et il arrivait et il voyait que des femmes à poil et c'était vraiment très tentant. Les papillons, c'était des sortes de vulves comme ça qui évoluaient dans le ciel. Sauf que quand il arrivait, il mettait un pied sur cette planète, sa verge disparaissait. Donc c'était poser la question de la virilité, de la masculinité sur cette planète. Et j'en ai lu un génial qui s'appelle Beat Fighter.
Ah oui, de Olivier Texier.
Voilà, donc là, c'est des garçons. C'est très drôle, c'est très cru. Et je me dis, quand est-ce qu'on aura un Roquin Marteau au BDQ de Bastien Vivès?
Ah bah, en fait, Les Melons de la Colère.
Ah, c'était dans cette collection. Ah, mais oui, voilà. Mais c'est vrai que c'était le petit format.
Non, c'était dans cette collection.
Il a dit gros format.
Mais par contre, énorme format.
Par contre, il y a un projet, c'est de faire, on a fait BDQ, mais faire un BD gros cul. Et alors, c'est des albums plus grands et en couleur.
Et ouais, parce que là, c'est un petit format.
Ça me ferait rêver aussi.
Mais, à propos de la couleur.
T'es fasciné par Chrome?
Pourquoi elle est totalement absente dans...
Ah, parce que j'en ai pas besoin. En fait, moi, j'aime pas trop la couleur, dans mes BD. Et moi, c'est surtout la lumière, en fait, qui m'intéresse. Et avec juste deux gris, un noir et un blanc, pas de problème, on peut faire toute la lumière qu'on veut.
Il y a un petit clin d'œil à la couleur au début de
Dans la semaine, on a un petit peu de couleur.
On poursuit avec un autre son.
Dans la future.
Huey Lewis.
Ouais.
And the news.
Ouais. And the news. C'est la BO de Retour vers le futur, un film que vous avez regardé un nombre assez incalculable deux fois, Bastien Vivès. Et vraisemblablement, en dessinant, vous regardez des films, l'écran allumé. Parfois sans le son,
en boucle. Ouais. Mais j'ai des périodes comme ça. Donc, Retour au futur, Indiana Jones, je les ai matés beaucoup parce que c'est au moment où je faisais Last Man et j'avais besoin de vraiment comprendre comment est-ce qu'on racontait une histoire, le scénario, comment ça s'imbriquait. Et Retour vers le futur est assez bien foutu pour ça, parce que c'est une intrigue très bien foutue, tout est très clair, et voir comment aussi la réal marche bien. Mais sinon, après, j'ai maté, Lost in Translation, je l'ai dû mater peut-être 75 fois en boucle dans le truc.
C'est pas le même genre. Oui.
C'est pas le même genre. Non. Et puis après, même L627 de Bertrand Tavernier aussi, je l'ai maté en boucle.
Les films de sauter aussi.
Et donc, dès qu'il y a un film que j'aime bien, je me mets, mais après, je les regarde pas tout le temps, parce que je suis en train de dessiner, donc j'écoute plus que ça comme un film audio. Un peu.
Et juste quelques mots sur Last Man qu'on a évoqué, c'est quand même une aventure assez incroyable, parce que vous fonctionnez comme pour les séries, comme le Bureau des Légendes, en gros, il y a une sorte de showrunner, donc vous êtes tous les trois avec vos deux acolytes, vous dessinez un peu les grandes lignes, enfin vous donnez les grandes lignes de l'histoire, et ensuite vous planchez, vous revoyez les planches les uns des autres, ça c'est assez nouveau en fait.
Oui, bah en fait, je pense que la bande dessinée à plusieurs, on avait toujours cette espèce de schéma scénariste et dessinateur, mais le seul problème là-dedans, c'est qui va s'occuper de la mise en scène, et c'est toujours le grand problème, alors que là, pour le coup, si on fait et tous ensemble le scénario et tous ensemble le dessin, bon, en fait, la mise en scène se met en place beaucoup plus facilement, et je trouve qu'on peut arriver à un travail plus intéressant, entre guillemets.
Ouais. Vous avez un projet ultime dans votre vie?
Bah déjà, Last Man, c'était quand même déjà un bon gros projet, mais après, j'ai quand même le projet, un jour, de faire un livre un peu... sombre, enfin de faire vous voyez comme le Bad Lieutenant au cinéma, des choses comme ça, vraiment d'aller dans quelque chose de sombre. J'ai énormément de mal à dessiner des gens méchants, à vraiment aller
Bad Lieutenant, c'est un méchant violeur quoi.
Oui,
c'est un pourri, bah si.
Ouais, oui, oui.
Non, il est taquin.
Il est taquin un peu,
C'est une époque.
Mais non, je suis d'accord.
Attention, Mathieu.
Mais la scène, c'est la scène dans la voiture, comme ça, où il se masturbe. C'était les années 70,
c'est une scène où il force la fellation.
Oui, je suis d'accord. Non, bien sûr.
C'est pas la
bien. Non, évidemment. Mais après, c'est assez fabuleux, parce qu'il y a quand même une partie de moi qui est un peu, je pense, misanthrope, n'importe quoi, mais qui est
plus sombre.
Je m'exprime dans les strips de blog, ou quand je fais mes petites histoires courtes. Là, je peux un peu vider, mais j'aimerais bien faire une BD sur ce que je pense un peu de l'humanité. Voilà.
Et définitivement pas de film, pas de cinéma.
Non, en fait, vraiment, j'y arrive pas.
Okay. Et pour finir, juste un cadeau. Alors, je connais pas vraiment tous vos goûts en matière de BD. Je crois que vous aimez pas plutôt la.
Parce qu'à un moment, le garçon va être dangereux.
Moi, je trouve ça intéressant. Moi, tu me dis Requin Marteau, BD Cube. Cette collection, je l'adore, donc je trouve ça plutôt bien. Mais je vous offre L'été en pente douce de Jean-Christophe Chausier et de Pierre Pelot chez Fluide Glacial. Ils viennent ressortir. Ils viennent être retravaillés. Et là, quand on parle d'érotisation de la femme, du corps, avec ce personnage féminin, forcément, on a tout d'un coup, on est comme dans du Tex Avery. Et
puis Chausier, il gratte bien. C'était Pauline Lafont aussi qui était. Non, c'était ça.
La comédienne dans le film. Non, c'était Isabelle Adjani.
Pour incarner
Isabelle Adjani.
Ah non, c'était L'été meurtrier.
Ce qu'il faut dire, juste un petit mot, c'est que Pierre Pelot, c'est un de nos grands romanciers. On ne parle pas assez de Pierre Pelot, c'est un romancier formidable. Et là, il est au scénar, effectivement.
Et
Chausier, c'est un grand dessinateur aussi.
Je voudrais préciser que vous avez donné une leçon de dessin en vidéo. Ça a été tourné par le web de France Inter. Comment j'ai dessiné une sœur. J'adore l'idée de ce making of. Et ça passera sur le site de France Inter, également sur le Facebook de la bande originale. Une leçon de dessin. Vous faites des masterclass aussi? Vous donnez des conseils?
Non, mais j'y pense un petit peu. Je trouve ça assez rigolo.
Le dessin, c'est un don ou ça peut s'apprendre?
Non, ça peut s'apprendre, mais
si on est mauvais, on est mauvais.
En fait, je pense que c'est vraiment les questions qu'on se pose, quoi. C'est au fur et à mesure, si on arrive à faire évoluer, il y a des gens qui ont un dessin dès le début qui est très bon, et en fait, qui vont stagner toute leur vie, et c'est assez, si on se pose pas les bonnes questions, savoir pourquoi est-ce qu'on dessine, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, au bout d'un moment, tu fais un joli tigre.
Il y a un truc que vous ne savez pas du tout dessiner.
Il y a des trucs sur lesquels, à part les vélos, il y a des trucs sur lesquels je galère un petit peu quand même. J'ai toujours des petits problèmes sur la mise en espace de mes personnages, mais en ayant travaillé 5 ans la semaine avec Michael Sanslaville, qui est peut-être un des meilleurs dessinateurs là-dessus, en fait, j'arrive un peu mieux à mettre mes personnages dans les décors.
Vous êtes un vrai doué avec un formidable talent. Bastien Vivès, chez Casterman, s'appelle Une sœur. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour les mythiques programmateurs musicaux de France Inter qui ont eu envie de mourir après avoir entendu cet éloge de la fantastique variétoche italienne. Allez, rest in peace, les gars, c'était quand même cool. Désolé pour nos auditeurs malvoyants qui, vu leur âge, vont bientôt être sourds et qui se sont plaints des propos anti-yeux de Bastien Vivès. Mais comme il l'a dit à la pause, Bastien, il s'en fout de toute façon, vous n'achetez pas ses livres. Désolé pour les fans de C. Jérôme qui ont été choqués de voir qualifier leur idole de phase de paix par François. Je comprends. En même temps, les amis, allez jeter un œil, regardez une photo sur Internet.
Mais non, arrêtez-toi. Respect.
Total.
Merci Bastien Vives.
Merci, à très bientôt.
À très bientôt. C'est Fabrice Santoro qui sera notre invité demain pour parler de Roland Garros.
Trop bien,
t'as raison. Et c'est Philippe Bertrand maintenant pour les carnets de campagne.
Ouais, bonjour, salut Philippe. Les amis, Santoro est sorti de l'arène.
Pas mal.
Ça c'est facile. Ah, c'était chaud aujourd'hui.
Wow, la vache.
Si tu es blonde à forte poitrine, tu appelles tout de suite.
C'est le gars à tous les talents.
Bonne émission.
Salut les amis.
Salut, ciao.